prenne une décision pour la suite des choses.
Merci beaucoup, Max, pour cet intermède de sport. Madame Blanchette Vizinay de retour en ligne. Vous allez toujours bien?
Oui, je vais bien. Encore une fois, merci de m'accommoder.
Ça fait plaisir.
C'est encore en région.
C'est ça, exactement. C'est la vie. Hey, justement, qui est le meilleur parti politique pour défendre les régions? Vous parliez de transpartisanerie, mais est-ce qu'il y en a un qui ressort présentement que vous vous dites que moi, lui, il a vraiment des bonnes idées pour les régions?
Ben écoutez, pour l'instant, j'attends de voir, moi, les plateformes électorales. C'est certain que quand on veut travailler de manière transpartisane, il y a des partis qui collaborent bien. J'ai pu travailler avec QS, j'ai pu travailler avec le PQ. En fait, en ce moment, beaucoup de partis souhaitent collaborer avec moi. C'est vraiment, je pense, c'est une bonne chose. Pour moi, l'angle région, ça va prendre une vision plus cohérente si on veut développer nos régions. Quelque chose où on intègre de la décentralisation. Puis à ce moment-ci, ben il n'y a pas encore de partis qui ont vraiment lancé leur plateforme pour la prochaine élection, mais j'espère que ça va se retrouver, décentralisation des décisions dans des plateformes électorales.
Est-ce que vous pensez que ça va être plus facile de faire votre travail en ce moment en tant qu'indépendante? Voyez-vous des différences concrètes?
Il y en a des concrètes en termes de temps de parole. On a vraiment peu de temps de parole. Ça, c'est quelque chose qu'on déplore. Les maintenant 8 députés indépendants, là, les premières fois qu'on s'est parlé, j'étais presque la seule avec Pierre Dufour, mm-hmm. assis à mes côtés. Là, maintenant, on est 8, on est plus que le Parti québécois, mais on a très peu de temps de parole. Il faut négocier. Il faudrait négocier ce temps-là si on souhaitait en avoir plus. Puis pour l'instant, les députés indépendants, s'ils ne font pas partie d'un parti politique reconnu, n'ont pas de temps de parole réellement valable. Par exemple, en commission, là, c'est 1 minute 16 secondes avec la réponse incluse du partenaire, là, la personne qui est invitée. Ça devient très difficile de faire un travail de député. Fait qu'on saisit des occasions autres. Moi, c'est comme ça que je travaille en ce moment. Donc, j'ai fait venir, par exemple, des gens de ma circonscription. J'avais invité le Parti québécois, le Parti libéral et l'EQS à se joindre à moi pour faire un point de presse. Certains ont répondu, d'autres ont changé d'idée à la dernière minute, mais ce qui est important, c'est qu'au moins, on mette de l'avant les besoins des gens des régions, puis qu'on puisse continuer de prioriser ces enjeux, et ces projets là, qu'ils ont apportés, qu'on a apportés.
Pour l'instant, vous travaillez comme indépendante, ça vous laisse une liberté. On comprend que vous appréciez quand même ça. Reste que d'être réélu à des élections générales comme indépendant, indépendante, ça se voit pas vraiment. Est-ce que vous ouvrez toujours la porte à vous joindre à un parti politique pour les élections en 2026?
Effectivement, ça peut être difficile au Québec. On a toujours une culture, je dirais, puis une forme de parlementarisme qui favorisait deux partis. Là, on commence de plus en plus à voir émerger... Oui, de la dissidence, des gens qui quittent des partis, pas juste dans la coalition Avenir Québec, dans d'autres provinces canadiennes, là, pas très loin d'ici, Terre-Neuve-Labrador, il y a même des indépendants qui se sont fait élire très récemment. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ça pourrait se voir au Québec? Peut-être. Moi, pour l'instant, ma réflexion est toujours à est-ce que je suis maman de deux jeunes enfants? Est-ce que je prends cet engagement-là envers mes citoyens pour 4 ans encore. Et si c'est le cas, qu'est-ce que je ferai avec une formation politique ou pas? Est-ce que j'irai comme indépendante? C'est possible. Je dirais que les portes sont ouvertes. Il y a certains partis, dont le Parti conservateur, là, qui m'approchent, qui m'ont approché, mais je veux vraiment m'assurer qu'il y ait une vision cohérente, globale, pour les régions du Québec, qui permet réellement d'avoir une décentralisation des décisions si je retournais dans un parti.
Pour rappel, on parle avec Maïté Blanchette-Vézina, députée indépendante de Rimouski, ex-ministre sous le régime de la CAQ. Justement, si on parle de votre ancien parti politique, la CAQ, quel bilan vous tirez de cette session parlementaire, la session du renouveau ou du retour en arrière pour la CAQ, comme je m'appelais à le dire?
Ah, mais moi, j'ai envie de dire, c'est des drôles de batailles que le premier ministre a choisi de livrer par rapport aux médecins, notamment, où, attaque frontalement là, les médecins pour faire des gains qui vont être nécessaires là, en termes de mode de rémunération. Mais pour revenir par la suite sur une position qui est encore plus favorable, alors que la volonté était de changer réellement le mode de rémunération, j'ai encore une fois de la difficulté à suivre le premier ministre. Et c'est pour ça aussi que je suis partie abandonner la réforme d'un régime forestier, les communautés forestières, annoncer qu'elle allait avoir 30 000 emplois perdus sans avoir de plan de match pour aider les
Ben voyons là, ils vont tous aller travailler à Hydro-Québec, c'est facile de même.
Ah, c'est ça, mais il n'y a pas d'emploi en ce moment, puis c'est des emplois temporaires. C'est vraiment, pour moi, c'est ridicule et risible là, de la part d'un premier ministre. Donc, c'est ce que je retiens. Encore une fois, ça conforte ce que je mentionnais, c'est-à-dire des reculs souvent, des avances, changes d'idées, n'a pas de plan de match. Mm-hmm. On dit avoir un plan de match, mais on voit rien de concret. Donc, des choses intéressantes quand même, je dois le noter, là, en termes de vision, de volonté de faire du développement économique. J'espère qu'il aura, donc, encore une fois, un plan pour les régions plus intégrées. Parce que, oui, il y a des opportunités à saisir, notamment en termes d'investissement dans la défense. Mais s'il n'y a pas concrètement une volonté d'avoir des emplois dans nos régions, intéressant, bien, ça va tout se centraliser. Puis c'est correct, c'est des investissements pour l'ensemble du Québec. Mais comment peut-on donner des conditions gagnantes aux régions pour qu'elles puissent saisir des opportunités? Bien, c'est en ayant des routes qui sont sécuritaires pour y accéder, pour que les matériaux, par exemple, ou les minéraux qui sortent des régions du Québec bien, puissent être apportés dans des villes pour être transformés de manière sécuritaire, avec sans affecter le réseau routier que les citoyens utilisent. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent être pensées de manière un peu plus cohérente qui ne sont pas faites en ce moment. Ça prend du logement, ça prend des écoles en bonne condition, puis c'est ce qui manque dans plusieurs de nos régions.
Parlant de cohérence, croyez-vous que la CAQ va également reculer là, sur le PEC, le programme d'expérience québécoise en immigration, parce que ça fait une grande tollée, ici même à Québec, là, c'est 13 000 personnes là, qui présentement là, pourraient devoir quitter la ville de Québec, et c'est des gens qui ont des emplois, qui occupent des logements, des maisons, qui payent des taxes, des impôts?
Ah oui, bien ça, c'est une autre incohérence. Ça aurait été si simple s'il avait dès le départ annoncé qu'il y aurait une espèce de droits acquis pour ceux qui sont déjà ici sur le territoire ou qui sont venus avec travailler, étudier ici là, pour avec ce programme-là, ou ayant en tête ce programme-là, pour faire une transition qui est, disons, cohérente. Là, encore une fois, on envoie des ballons électoralistes, ça a des impacts partout au Québec, sans réellement d'avoir un plan de match. Je l'ai entendu en entrevue, je ne sais plus si c'était à votre radio ou dans une autre, qui mentionnait à Québec que non, tout le monde va être accepté, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout parce que le premier ministre a dit que ces 13 000 personnes-là, par exemple, à Québec, allaient être accueillies réellement, que ça va l'être. Il y a des procédures administratives. C'est pas nécessairement ce qui se passe. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vois dans mon comté du tout, là, des gens aussi qui nous disent, ben, écoutez, moi, je contribue à la société, au fait qu'il y a des gens dans nos écoles, parce qu'il y a aussi, il y a ça aussi dans certaines régions, un manque de vitalité. Et là, ces gens-là vont devoir quitter, ou doivent s'inscrire au nouveau programme en espérant être réellement reconnus, mais en n'ayant aucune garantie. C'est encore le chaos. C'est des ballons, je vous dirais, de communication, malheureusement, que le premier ministre lance. Puis après ça, il vient corriger en disant « Oui, mais ça va bien aller, là, vous inquiétez pas. » Mais dans les faits, il n'y a rien qui change. Puis sur le terrain, bien, c'est pas ce qu'on constate. C'est déplorable, je vous dirais, de la part d'un premier ministre, surtout en fin de mandat comme ça.
Bien, vous avez été à l'intérieur du gouvernement. Est-ce que vous pensez que ça était de la politique à la semaine dans ce sujet-là de l'immigration?
Je vous dirais que l'immigration, c'est un enjeu qui est important, puis c'est vrai que ça met de la pression sur des services dans la région de Montréal, par exemple, ou sur le français dans la région de Montréal, encore une fois. Mais de lancer au gouvernement fédéral le message qui doit réduire l'immigration, c'était, je pense, une bonne chose, mais sans vraiment attacher les choses, encore une fois, ça fait précipiter de la part d'un premier ministre, malheureusement, puis ça a des effets. Ça a des effets réels. Là, maintenant, il y a des décisions, une partie des décisions qui sont prises par le fédéral, qui ont été prises sans tenir compte des particularités régionales ou du Québec en particulier. Puis ça a des effets. Puis après ça, le premier ministre dit, bien, il y a une partie qui ne nous appartient pas, qui appartient au fédéral. Mais c'était aussi en réponse à une demande du premier ministre du Québec. Puis je pense que il y a à se poser la question là, de la capacité d'accueil des Québécois, c'est certain. Mais de faire encore une fois des messages politiques pour essayer de gagner le cœur des Québécois, puis ensuite essayer de corriger, ça fait improviser. Puis c'est improvisé, malheureusement, et c'est ce qu'on voit, et c'est ce que je voyais de l'intérieur aussi.
Maïté Blanchette-Vézina, on avait la discussion ce matin, nous trois en studio, on se demandait est-ce que François Legault est un bon leader, parce que il continue de dire qu'il fonce, puis qu'il va rester chef, puis qu'on s'en va ensemble vers les prochaines élections, mais on se demandait, bon, ça, c'est-tu du bon leadership dans le contexte où la CAQ s'en va vraisemblablement nulle part? Vous l'avez côtoyé pas mal plus que nous, François Legault, est-ce que c'est un bon leader?
Ben moi je ne suis plus j'ai plus confiance en ce leader, donc j'ai de la misère à vous trouver à trouver du positif. Il a fait des bonnes choses pendant, je pense, la pandémie, mais aujourd'hui les Québécois, autant que moi, ne le suivent plus. Là, il essaie de corriger, de se recentrer, d'aller vers la droite, ce qui est une bonne chose, mais c'est trop peu trop tard, à mon avis, de vouloir rester. Pour moi, c'est clair qu'un vrai leader constate l'intérêt de son parti, le parti qui l'a construit, qui l'a bâti, et va penser à cet intérêt-là avant le sien. Puis là, ben, j'ai l'impression qu'il pense au sien, sa sortie, vouloir essayer de gagner encore, vouloir avoir raison. Je pense pas que c'est des qualités d'un bon leader, à mon avis. En ce moment, ça ressemble à ça, presque de l'acharnement. Écoutez, les Québécois vont juger aux prochaines élections si M. Legault est encore là, si c'était un bon leader. Moi, j'en doute très fortement.
Maïté Blanchette-Vézina est députée indépendante pour le comté de Rimouski. On vous remercie infiniment pour votre temps ce matin et au plaisir de se reparler. Si on ne se reparle pas d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec votre famille et vos jeunes enfants.
Merci beaucoup,
Mme Blanchette-Vézina. Au revoir. Alors, c'était Maïté Blanchette-Vézina, députée indépendante de Rimouski. Toujours intéressant de parler avec elle. C'est fou comment les langues se délient lorsqu'on devient indépendant.
Mais oui, tu ne vois plus rien à personne. Puis, surtout dans le contexte où, de ce que je comprends, elle ne se représentera pas.
Non, elle l'a clairement dit. Je pense pas qu'elle ait trouvé de partenaire de danse. Éric Duhaime l'a beaucoup approché. Ça n'a pas l'air du tout à l'intéresser. Puis là, de toute façon, c'est le Parti québécois là, dans la circonscription de Rimouski qui est genre gagnant 99%.
Ce sera ça ou rien. Puis le Parti québécois a déjà mentionné que des transfuges caquistes, on n'en voulait pas.
Exactement. Puis ça revient que ce que Pascal nous disait en début d'émission. Quand tu te lèves comme ça contre ton chef, ben des fois, ça rebute les autres partis politiques aussi.
Oui, plutôt côté politique, côté électeur. Mais j'aurais aimé et j'aimerais encore, si jamais après Noël, n'importe qui a quitté la CAQ souhaite en dire plus sur comment c'est organisé au sein de la Coalition Avenir Québec, au niveau du leadership, au niveau de la prise de parole que tu peux avoir, au niveau de du challenge d'idées politiques que tu peux avoir. Ça nous ferait beaucoup avancer notre vision des choses au niveau du parti politique puis être capable de mieux voter aux prochaines élections. Parce qu'il y en a plusieurs qui se retournent vers la CAQ, semble-t-il, depuis le déboire des libéraux.
Ça reste à voir.
Parce que pour eux, le fait d'être indépendant, d'être un pays au Québec... Ouais. C'est pas quelque chose qui germe dans leur tête, puis c'est ce qui les bloque de voter pour le Parti québécois. Mais de retourner avec la CAQ actuellement, j'aurais du mal à croire une élection comme celle-ci.
Oui, moi aussi, parce qu'il y a énormément d'usure du pouvoir là, à l'heure actuelle pour François Legault. On fait une courte pause. Denis Gravel vient s'installer pour le pit stop. C'est sûr qu'on revient ses buts de neige. On va rire encore un petit peu de ce dossier-là qui est pas drôle. Il est peut-être même dramatique pour nos enfants qui peuvent plus s'amuser dans leur cours d'école. Et on va regarder aussi François Legault donner une entrevue à Paul Larocque hier. On va en discuter avec Denis Gravel au retour de cette courte pause. Boulevard.